Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Et si jamais tu te demandes, c'est fait par Binge Audio.
Un jour, dans les années 2000, à Tours, où j'ai passé mon adolescence, on nous a rassemblés dans la salle de permanence du collège, avec toutes les classes de 4e, parce que quelqu'un avait quelque chose de très important à nous dire au sujet du sexe et des drogues. Un grand monsieur maigre et très stressé, qu'on n'avait jamais vu avant, nous a débité un discours qu'il connaissait apparemment par cœur. Ce que j'en ai retenu, c'est que les petits joints que je fumais à la pause de midi allaient forcément me conduire à bientôt m'injecter de l'héroïne dans les buissons, et que mon cerveau de jeune fille avait été irrémédiablement souillé par les images pornographiques qui se diffusaient sur Internet. À un moment, le monsieur a carrément dit « La masturbation, c'est très dangereux !» Et je me souviens avoir explosé de rire. D'ailleurs, en sortant, je me suis empressée d'aller recopier cette phrase au Posca bleu fluo dans les toilettes des filles, assortie d'un petit commentaire. La masturbation, c'est très dangereux, surtout avec une râpe à fromage. Les couilles sur la table, épisode 87. Tout aurait été tellement différent si, au lieu du monsieur bizarre, on avait eu la chance d'avoir Dr Capote. Franchement, on devrait le cloner en 50 000 exemplaires pour que tous les élèves puissent avoir la chance de participer à ses séances de prévention, séances qu'il dispense depuis maintenant 30 ans dans tous les bahuts qu'il lui propose. Heureusement pour nous, entre ses groupes de parole sur le consentement, ses interventions en prison et ses chroniques dans le magazine féministe Cosette, Didier Valentin, Dr Capote donc, a eu enfin le temps de se poser un peu pour écrire un livre sur ses 30 années de carrière. Ça s'appelle « Pubère la vie ». C'est publié aux éditions du Détour. Et vraiment, je vous en recommande la lecture à tous, à toutes, parce que c'est joyeux, c'est drôle, c'est très touchant. Dans cet entretien, vous apprendrez plein de choses sur les jeunes garçons d'aujourd'hui, sur leur rapport au porno, au consentement, au féminisme. Mais d'abord, Didier Valentin va nous raconter le début de son histoire. Comment le jeune homme qu'il était, relativement insouciant, s'est retrouvé à s'engager corps et âme dans le travail social pour tenter de rendre le monde un peu moins moche et les garçons un peu moins violents. Retour dans les années 80, il a 19 ans, la vie devant lui, il écrit des publicités et écoute de la New Wave.
Bah, il y a un soir où j'ai pris un risque dans un environnement où beaucoup de gens étaient touchés. On commençait à avoir les premiers malades du sida. Et bon, j'ai eu une petite période d'inquiétude en attendant le résultat. Le résultat était négatif, ouf. Et puis c'est tombé une période où moi j'avais décidé de venir sur Paris, parce qu'à l'époque j'étais à Valence, donc dans le sud de la France. Et en arrivant à Paris, j'ai vu une émission autour du sida et une recherche de volontaires, parce qu'on parlait plus de volontariat que de bénévoles à l'époque, et d'une association qui s'appelle Solancy, Solidarité Enfants Sida, qui était une association pas très loin de chez moi. Donc du coup je suis allé voir, vraiment, en me disant il y avait une urgence, il y avait quelque chose à faire, donc... Et en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé par quelques heures de volontariat et j'ai fini comme salarié. Et du coup, je suis resté pendant quelques années dans cette association en soutien des personnes séropositives ou malades du sida. Essentiellement des familles avec enfants, en fait. Ensuite, ça devenait logique au moment où j'ai arrêté par fatigue, parce qu'enterrer des gens tout le temps, c'est épuisant. Et du coup, je me suis dit que je voulais continuer, en fait. Hein. Pour le coup, je n'avais pas retourné dans la pub, très clairement. C'était plus du tout d'actualité. Et l'idée, c'était de poursuivre, bosser avec les adolescents. Et à ce moment-là, je sais que le CRIPS, le Centre Régional d'Information de Prévention du Sida, à l'époque, aujourd'hui c'est le S de Santé, cherchait des animatoristes de prévention, en fait. Et du coup, j'ai postulé. Et comme j'avais l'expérience de Solancy, j'ai été pris et j'ai démarré dans les lycées, en fait. Par contre, après, quand je suis passé dans le travail social, petit à petit, ce métier, il a fait totalement écho à à ma vie, en fait. Il a fait écho à mon enfance, avec le fait d'avoir vécu les violences conjugales en tant qu'enfant. Donc ça a fait écho, bien évidemment, sur les relations, sur l'état des relations. Et bosser ça avec les jeunes, c'était un révélateur, en fait. J'ai un devoir de mémoire vis-à-vis de ma mère, et je trouve que ça venait un petit peu limiter cette culpabilité de ne pas avoir agi quand t'es enfant sur les violences conjugales, quand tu les vois et tu les vis. Donc là, j'agissais, réellement. Donc je crois que là-dessus, ça m'a fait du bien. Et puis, j'ai une fille aujourd'hui, et c'est vrai que j'ai, pour le coup, j'ai aussi un devoir d'avenir. Je dis souvent ça, tu vois, le devoir de mémoire, le devoir d'avenir. Et je trouve que ce boulot aujourd'hui, où on travaille beaucoup plus sur les questions de relations, sur les violences sexistes et sexuelles, qu'au départ, où c'était quand même plus les infections sexuellement transmissibles et une prévention dite hygiéniste, hein, aujourd'hui, je trouve que c'est hyper parlant dans mon parcours, et je pense que ça se justifie pleinement, en fait. On ne peut pas continuer comme ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours entendre ces histoires de violences sexistes, sexuelles, conjugales, qui sont toujours massivement le fait des hommes, sans y réfléchir. C'est-à-dire que moi, ça m'a amené à réfléchir aussi, moi, à ma posture, est-ce que j'allais reproduire ou pas ça.
Ce que vous racontez, c'est que votre père était boucher. Et votre père était violent avec vous et avec votre mère?
Alors, il était violent surtout dans les paroles avec nous, pas forcément physiquement, quoique quelquefois, si oui, on a tendance à refaire un peu le match. Mais oui, bien sûr, nous, la violence a été quotidienne, en fait, chez nous. Donc moi, j'ai aucun, mais vraiment aucun bon souvenir d'enfance à partager avec mes enfants, en fait.
Et donc, ensuite, vous devenez travailleur social et vous faites de la prévention auprès des jeunes dans les lycées. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe aujourd'hui, une journée banale pour vous, quand vous êtes appelé dans un établissement, qu'est-ce qui se passe?
En ce moment, c'est particulier. Moi, j'attaque mes animations en reparlant de ce qui se passe aujourd'hui en Belgique, où il y a des personnes qui attaquent la vie affective et sexuelle. Enfin, du moins, les animateurs, animatrices qui travaillent sur la vie affective et sexuelle. On a un gros retour réac, orchestré, on sait par qui, hein, globalement, les ultra-religieux, l'extrême droite, les masculinistes aussi qui n'ont pas du tout envie que les jeunes filles soient conscientisées à tout un tas de choses. Ça allait jusqu'à des écoles un peu incendiées, hein, enfin pas un peu, incendiées même. Et puis surtout sur les réseaux, énormément de messages négatifs par rapport à notre travail, et surtout qui disent des fake news, hein, comme quoi on déshabillerait les mômes très jeunes, on les inviterait à se masturber, etc. Donc systématiquement, en ce moment, je rétablis la vérité sur ce qu'on va faire, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on a déjà fait, et bien pointer du doigt que ce qu'ils peuvent voir sur les réseaux ou ce que peuvent dire éventuellement leurs parents, c'est des fake news. Ensuite, là, on peut attaquer vraiment la séance de prêve. Et moi, j'attaque depuis quelques années par la question du genre, parce que je trouve que c'est hyper important d'être inclusif tout de suite. Dans la pièce, j'ai des jeunes que je connais pas. Je viens d'arriver, donc voilà, j'ai l'ensemble du groupe, je les regarde un petit peu dans leur posture.
Comment vous sentez d'ailleurs? Comment ça sent une atmosphère de classe au bout de tant d'années là? Vous avez des radars, quoi. Vous sentez. Enfin, qu'est-ce que vous pouvez sentir par exemple?
Ouais, alors on peut toujours se tromper. Hein. Il y a des fois, t'arrives, tu te dis, deux mecs qui sont un peu chauds et tu te dis, ouais, bon, eux, ils vont être. Pendant toute l'anime, ils vont me prendre la tête. Puis en fait, pas du tout. Au contraire, ils sont moteurs. Donc on peut encore se tromper. Mais bon, on sent quand même si une classe, il y a déjà une bonne dynamique de groupe ou s'il y a des tensions, s'il y a des groupes. La méante, ils s'installent déjà. Il y a énormément de classes où t'as les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Dans le fameux U que j'essaye de faire quand je peux, parce que c'est pas toujours le cas. C'est très coupé en deux, en fait.
Ça dépend pas de l'âge?
Non, bon, après, moi, je vois quand même des âges assez proches, parce que je fais quand même globalement le plus 4e, 3e, seconde, première, quoi. Donc, c'est pas si éloigné que ça. Donc, du coup, si on retrouve quand même pas mal ça, finalement, pas énormément de mélange. Et les classes où il y a un vrai mélange, tu te dis, ah, tiens, quand même, il y a une dynamique de groupe un peu différente, quoi. Donc, je trouve que les 5 premières minutes, elles sont assez importantes pour tester un petit peu la manière dont ils s'installent, les postures qu'ils peuvent avoir, les mecs qui prennent plein de place, qui sont en mode manspreading, ceux qui en prennent moins, ceux qui se mettent tout au fond, qui se cachent, puis on dit, mais non, on a fait un U, il faut que tu te rapproches, enfin voilà quoi. Donc ça donne une petite idée un peu des choses, quoi.
Et après, vous attaquez la prêve?
Ouais, et après j'attaque effectivement par... moi je projette tout de suite la licorne du genre et je m'appuie dessus pour parler de l'identité de genre. Et depuis quelques temps, j'avais lu un truc intéressant, j'en parle avec eux, cette histoire de sentiment intime en fait. Parce que cette histoire d'identité de genre, ils sont confrontés des fois au regard des adultes, des parents, qui sont pas toujours au fait de la non-binarité, de la fluidité... Ce qui est logique, c'est très récent, en fait, hein, pour les adultes.
Parce que quand on dit vous projetez la licorne du genre, dire que c'est un outil pédagogique très utilisé par plein d'associations qui explique la différence entre identité de genre, expression de genre,
ouais,
orientation sexuelle, je ne sais pas si je m'en souviens
ouais,
bien, et
Orientation aussi émotionnelle.
Orientation émotionnelle.
Ouais, émotionnelle, sentimentale. Ce qui est bien, de faire la différence aussi entre le sexuel et le sentimental à une période où on peut être très amoureux, ressentir des choses et pas avoir forcément envie de passer à l'acte. Ça permet aussi de parler de la sexualité avec le A privatif. Voilà, donc c'est cette identité, je passe quand même du temps en disant qu'aujourd'hui, les identités de genre sont plus figées comme avant. Et ça, c'est quand même énorme, c'est une liberté incroyable. Et c'est vrai que parler du sentiment intime, c'est leur faire comprendre que s'ils ont un sentiment intime, personne ne peut le remettre en question, en fait.
Donc, vous leur parlez tout de suite d'identité de genre. Et à la fois, pendant ces séances de prévention, vous devez parler de plein de sujets différents. D'ailleurs, vous ne pouvez pas parler de tous les sujets à chaque fois.
Non.
Donc, vous pouvez parler de pornographie, vous pouvez parler de consentement, vous pouvez parler de, même de prostitution. Comment ça émerge, les sujets? Comment vous choisissez ce dont vous allez parler?
Moi, depuis quelques années, j'ai quand même un fil, parce que l'idée, c'est quand même d'arriver, d'évoquer le consentement. Donc, il faut que je garde, j'ai ce fil en tête où, quoi qu'il arrive, on va évoquer le consentement et surtout les rapports de domination dans la vie affective et sexuelle. Mais l'idée, c'est quand même, si quelque chose émerge au milieu de la discussion, ne jamais laisser de côté une question ou un sujet qui est abordé par les jeunes. C'est la priorité, en fait. Dans leur réflexion, entre deux mots, on peut aussi leur poser la question, il me semble que j'ai entendu ça, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que tu n'es pas en train de nous parler là de porno ou de prostitution ou de ou tout un tas d'autres sujets, d'infections sexuellement transmissibles ou autres? Et là, on peut rebondir, en fait.
Vous dites, OK, on parle d'abord d'identité de genre. Ça, c'est ce que vous commencez à faire. Avec soit la licorne du genre, soit vous expliquez dans le livre avec des post-it sur c'est quoi les avantages d'être une fille, c'est quoi les avantages d'être un garçon, d'être une personne non-binaire. Et comment, ensuite, vous basculez sur le sujet du consentement et ou de la domination qui peut exister dans les relations affectives?
En partant de cette question du genre, on travaille forcément les stéréotypes de genre et tout ce qui est normes de société, en fait. À quel moment on est prisonnier d'un rôle qui est clairement défini quasiment dès la naissance. Moi, il y a des jeunes qui me disent, si un jour j'ai un fils, faut qu'il fasse le projet Mbappé, c'est-à-dire qu'il soit foot, quoi, qu'il fasse du foot.
Faut qu'il fasse le projet Mbappé.
Ouais, c'est le projet Mbappé, ouais, ça rapporte beaucoup, je crois. Donc c'est aussi ça, aussi, il y a une projection aussi sur l'argent. Mais, et puis aussi je leur dis, ok, très bien, mais si ton fils te dit à 5 ans ou 6 ans, j'ai très envie de faire de la danse classique. Et là, en général, il y en a beaucoup qui ont dit « Ah non, c'est pas possible, quoi. » Parce que tout de suite, la projection de traverser la ville avec son gamin en collant pour l'accompagner jusqu'au club de danse, c'est pas du tout la même chose qu'accompagner son fils en short et crampons au stade de foot, quoi, très clairement, quoi. Et ce qui est intéressant à montrer, je pense, pour vraiment sensibiliser, c'est que des deux côtés, il peut y avoir des choses positives, certes, mais surtout, il y a énormément de choses négatives. C'est-à-dire que l'excès de virilité chez les jeunes garçons, ça amène des rixes, par exemple. Moi, je vis dans le 93 et j'y travaille beaucoup. Le phénomène des rixes, c'est quand même très présent. La rixe, c'est quand même particulier. C'est quand même la bagarre programmée via Snap. Donc qui est organisée, en fait. C'est-à-dire qu'on va monter en l'air le quartier d'à côté ou la ville d'à côté. On s'équipe pour ça, en fait. Donc ça, c'est présent, les rixes, les morts prématurées sur accidents de scooter, voiture, etc. Les prises de risques sur produits qui sont plus fortes chez les mecs plus jeunes. Les filles consomment, mais ensuite, plus tard, produits stupéfiants, en fait, par exemple. Je pense essentiellement alcool, drogue, l'alcool est une drogue. Cannabis, avec des jeunes qui se déscolarisent, par exemple. Le cannabis est souvent minimisé, mais il y a quand même pas mal de jeunes qui se déscolarisent quand ils sont des gros consommateurs de cannabis. Donc là, on fait la réduction des risques. Les incarcérations, moi je bosse un peu en prison dans les quartiers pour mineurs. Et franchement, il y a que des mecs, quoi, quasiment. Quoi. On sait, Lucille Pétavin a écrit son bouquin, effectivement, sur le coût de la masculinité. 96,4% des détenus sont des hommes. Donc ça, c'est quand on énonce tout ça, ils sont quand même touchés. Ils se rendent compte qu'effectivement, cet excès de virilité, il peut peser, d'autant plus au collège, chez des jeunes, par exemple, qui n'aiment pas le foot, qui n'ont pas envie de se confronter physiquement tout le temps avec les autres. Dans un deuxième temps, moi, je travaille aussi sur, effectivement, la séduction. Et ça, c'est vraiment, je trouve que c'est hyper compliqué à leur faire comprendre, mais ça, c'est important de le travailler. C'est comment le corps des filles est objectivé et sexualisé dès la puberté. Quand effectivement leur corps change, les fesses, les seins. Ça, c'est un truc que nous, les mecs, on vit pas. Notre corps peut être sexualisé quand on est jeune dans le cadre de la pédocriminalité. Mais ensuite, dès qu'on grandit, ça disparaît. Là où pour les filles et les femmes, ça va perdurer, en fait. Et je trouve que ça, c'est l'idée, c'est d'essayer de créer de l'empathie pour ce qui se passe chez les jeunes filles à ce moment-là. Et ça passe par ce côté, quand ils voient une vidéo sur TikTok de deux filles de 12-13 ans qui filment leurs fesses et leurs seins, etc., au lieu de les traiter de putes, se dire, elles répondent, comme eux, quand ils postent des vidéos où ils font des roues arrière avec leur T-Max, elles répondent à des injonctions, en fait.
Donc là, vous parlez des jeunes garçons, parce qu'en fait, dans tout le livre, le questionnement, c'est quand même aussi, bah, qu'est-ce qu'on fait de cette masculinité? Est-ce que c'est possible de fabriquer des alliés? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des jeunes garçons? Et tout ça, c'est passionnant d'ailleurs, hein, parce que je pense que vous avez un accès à ce qui se passe dans leur tête, à leurs imaginaires, à ce qu'ils disent et tout, auquel peu de gens ont accès finalement. Les profs n'y ont pas accès, les parents n'y ont pas accès. Enfin, c'est quand même très très rare, quoi, et assez unique en fait comme position. Bon, et vous dites que bah, vous voulez leur expliquer des choses aussi sur la physiologie, sur l'anatomie des femmes, et vous écrivez, ils ont autant d'engouement pour la contraception, les règles, les pertes, l'hymen ou le vagin que pour le jour du Seigneur le dimanche matin sur France 2.
Alors maintenant, je travaille beaucoup sur le partage de la charge contraceptive et entre autres les sensibiliser au fait qu'aujourd'hui, il y a des outils. Alors je leur sors le slip thermique, le fameux remonte-couille toulousain, parce que d'abord, c'est ludique, ça met un peu de fun, plus que l'Androswitch, qui est un très bon outil, hein, mais c'est vrai que le
L'Androswitch, slip, juste pour expliquer aux auditeurs qui ne connaissent pas, donc c'est un anneau qui n'est pas commercialisé pour l'instant, parce qu'ils n'ont pas eu l'autorisation de mise sur le marché, mais qui est le même principe de la contraception testiculaire. Donc, qui vise à faire remonter la température des testicules afin d'arrêter la production de spermatozoïdes. Ce qui n'empêche pas ni les érections, ni l'éjaculation. Ça arrête la production de spermatozoïdes.
Ouais, voilà. Cela diminue fortement, ce qui fait qu'on est contracepté. C'est-à-dire que la spermatogénèse chute, en fait, et parce que les testicules, en remontant, gagnent 2 degrés, en fait. Et c'est mécanique, en fait, hein, c'est mécanique, naturel.
Donc des fois vous leur sortez le slip là, des fois voilà, vous décidez que bon, bah, vous allez leur parler de charge contraceptive, de partager la charge contraceptive, que c'est pas que aux filles de prendre en charge ça, qu'eux aussi ils ont des responsabilités s'ils ont des relations hétérosexuelles, donc vous leur sortez le slip.
L'idée c'est déjà de leur poser la question, est-ce qu'ils connaissent des moyens de contraception masculin, enfin pour les personnes qui ont un pénis, la capote c'est acté, très bien, ça veut pas dire qu'ils la mettent, mais bon, ils la connaissent. Mais après, ça s'arrête là. Et du coup, ils posent des questions sur la pilule pour homme. Bon, la pilule pour homme, on l'attend toujours, hein, c'est quand même l'arlésienne. Mais en même temps, est-ce que les mecs sont prêts à acheter une pilule? Est-ce qu'on va mettre sur le marché quelque chose qui se vendra pas? Ça, c'est une vraie question. Et puis ensuite, ça permet aussi surtout de leur faire comprendre qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes femmes, et probablement quand ils sont dans une sexualité active ou dans un couple ou dans une relation un peu plus stable, peut-être que ils vont rencontrer des filles qui vont dire « Écoute, ça suffit, moi j'ai plus envie de prendre la pilule, j'en ai un peu ras-le-bol, et c'est à ton tour aussi d'utiliser un moyen de contraception. » Donc c'est déjà les sensibiliser, je me fais aucun doute. Je tire pas de plan sur la comète, il y a aucun des mecs que je vois qui, à 15 ans, va aller se fabriquer son slip contraceptif.
Non, mais au moins, ils sont un peu au courant, quoi.
Mais voilà, l'idée, c'est vraiment ça. C'est, sur le fond, c'est le partage de la charge contraceptive. Les hommes peuvent aussi se contracepter. Et être maître aussi, ça leur parle aussi, être maître un peu aussi de leur contraception. C'est-à-dire que cette idée de... attention, tu peux être père, qu'on leur dit assez rarement, finalement.
Sauf que vous leur dites ça avec... parce que vous utilisez plein de petits scénarios pour provoquer la discussion. Donc, un des scénarios, vous racontez dans un des chapitres, c'est de dire... alors voilà, imaginez qu'à 8h du matin... votre copine vient vous voir avant les cours au lycée et vous annonce qu'elle croit qu'elle est enceinte. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'ils répondent en général?
Ah ben, en général, ils courent.
Et ils disent « je cours ».
Ouais, ils courent. Ils courent tous. C'est le moment Forrest Gump. Bon, après, c'est un peu de la vanne aussi, c'est un peu de la provo. Ils courent même très loin. Il y en a qui disent « ah, moi, je cours jusqu'à l'aéroport, je retourne au bled et on voit plus quoi ». Donc, ils repartent. Ils repartent dans leur campagne, ils repartent n'importe où, ils courent autour du périph. En tout cas, ils se barrent. Et puis là, après, on travaille derrière.
C'est fou, comme la première réaction, c'est fou, quoi. Mais bon, ok.
Ouais. Bon, après, il y a un peu de jeu aussi derrière tout
ouais,
ça.
Ouais.
Puis, alors, je leur dis, bon, attends, il y a quand même. Je vous ai dit, votre copine vous dit, je crois que. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose déjà à vérifier? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Où on peut aller? C'est là où on peut vérifier déjà s'ils connaissent les centres de planification, le planning familial. Normalement, ils l'ont eu en quatrième, il y en a plein qui ont oublié. Donc, on refait un petit topo, du coup, sur qu'est-ce qu'un centre de planification, le planning familial, qu'est-ce qu'on peut y faire, etc. Les différents tests, effectivement, de grossesse. Et puis, surtout, ça permet de se dire, on accompagne ça, en fait. On accompagne ce questionnement, en fait. Et qu'est-ce qui se joue à ce moment-là? Pourquoi il y a cette peur, en fait? Et en fait, la peur qui revient le plus, c'est mes parents vont me tuer. Ouais, si j'annonce à mes parents que ma copine est enceinte, ça va être une catastrophe, quoi. À cet âge-là, ça peut se comprendre. Hein. Pour le coup, ils ont cette angoisse-là.
Il y a un autre scénario que vous utilisez en classe, c'est l'histoire de la barque avec Gégé. Est-ce que vous voulez bien nous raconter, comme si on était en classe avec vous, ce qui se passe avec Gégé et sa barque?
C'est une de nos collègues au CRIPS qui nous avait amené ce scénario. Moi, je l'utilise beaucoup, il m'a vraiment plu.
Pour parler de consentement.
Donc du coup, c'est l'histoire de Abby, qui est d'un côté du fleuve. Donc je dessine le fleuve, hein, Abby. Et Abby est très amoureuse de John. Donc il est de l'autre côté, qui est de l'autre côté du fleuve. Pour l'instant, tout va bien. Leur histoire, il y a deux ponts, ils se retrouvent régulièrement, ils passent des bons moments, etc., etc. Et puis bon, voilà, réchauffement climatique, une tempête assez incroyable arrive et le fleuve sort de son lit et les deux ponts sont explosés et Abby ne peut plus rejoindre John. Mais sur la rivière, il y a un bateau qui a résisté à la tempête et ce bateau, c'est le bateau de Gégé. Moi, je l'appelle Gégé, donc c'est une petite ref à notre ami Gérald Darmanin, qui est perso, les gamins, ils connaissent pas, hein, de toute façon, ils font pas le truc. Moi, ça me fait plaisir, ça me fait un peu du bien. Voilà. Donc
Gérald Darmanin, qui est donc le ministre de l'Intérieur en France, voilà, et dont le comportement a des similitudes avec l'histoire que nous allons continuer d'entendre.
Voilà, exactement, ouais, des similitudes. Et donc, du coup, Abby va voir Gégé, en lui disant, voilà, est-ce que tu peux m'emmener de l'autre côté du fleuve. Et ben, je lui dis, mais bien sûr, Abby, bien évidemment, mais ça ne sera pas gratuit.
Je vais vous aider, mais vous aussi, il va falloir m'aider, lui dit Gégé.
Donc, et du coup, il demande une fellation pour passer, effectivement. Abby, choqué, va voir sa mère pour demander conseil. Et sa mère, c'est la tempête, elle est débordée, sa mère a la maison à réparer. Elle lui dit, écoute, Abby, t'es bien gentil, mais... Voilà quoi, moi je suis débordé, là écoute, vas-y, prends tes responsabilités, débrouille-toi, fais tes choix quoi. Donc Abby repart et elle redemande à Gégé, Gégé il a pas bougé d'une oreille, hein, c'est toujours ok, c'est contre une fellation, tu traverses. Abby finit par céder, cette phrase elle est importante, Abby finit par céder et elle passe de l'autre côté de la rivière. Je reste pas trop longtemps là-dessus, j'en passe de l'autre côté, elle va rejoindre Tom qui lui demande mais comment t'as fait Abby pour me rejoindre. Elle lui explique et forcément Tom rentre dans une colère noire et vire Abby en lui disant tu m'as trompé, va-t'en. Abby part en pleurant et elle rencontre Eric qui lui dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive Abby, pourquoi tu pleures ?» Elle lui explique toute l'histoire et Eric lui dit « Écoute, c'est pas possible, on peut pas accepter ça, tu viens avec moi » et ils vont casser la gueule, non pas de Gégé, mais de Tom, et ils partent ensemble. À la fin de cette histoire, voilà, maintenant vous allez essayer de réfléchir à qui a eu le meilleur comportement. On a même une petite touche morale dans l'histoire, parce que je trouve que c'est intéressant qu'ils puissent, du coup ça fait émerger leurs valeurs et leurs représentations. Qui c'est le mieux et le moins bien comporté dans cette histoire? Et là, en général, ça part à fond, il y a un gros débat. Et où on retrouve très souvent, où la victime, Abby, est très souvent pointée. Hein. Moi, à sa place, j'aurais pas fait ci, moi, j'aurais fait ça, etc. Donc, on parle à la place d'Abby, qu'est-ce qu'on aurait fait? Finalement, l'action de Gégé, elle est assez minimisée. Il y a des jeunes qui parlent de négociation, voire de négociation commerciale. Le mot viol ne sort jamais, ou très rarement, ou agression. La mère est pointée du doigt, et là c'est intéressant à travailler, parce qu'effectivement on peut se dire, est-ce que les parents peuvent toujours répondre à nos questions? Est-ce qu'ils sont toujours disponibles pour nous? Est-ce que c'est des sujets qu'on aborde avec ses parents? Tiens, je suis allé au Franprix, le mec m'a demandé, avant de rentrer pour faire mes courses, une fellation, est-ce que je raconte ça à mes parents quoi? Donc, ça amène plein de questions, est-ce que c'est pas Tom qui aurait dû traverser? Est-ce que Gégé aurait demandé la même chose à Tom? Pourquoi Tom vire effectivement Abby sans pousser plus loin les investigations sur ce qui s'est passé, etc., etc. En général, on a une bonne heure de débat là-dessus. Et l'idée, à un moment donné, moi je bloque les débats, je dis bon ok, là maintenant, franchement dans cette histoire il y a quelque chose que vous n'avez pas vu, il y a une agression sexuelle, il y a un viol. Et là il y a un blanc, tout le monde cherche. Mais vous ne l'avez pas raconté. Si, si, je vous l'ai raconté. Et en fait, à ce moment-là, on va pointer le fait que effectivement Abby n'est pas dans un consentement éclairé, et on va lister ensemble les zones de vulnérabilité qui font que Abby n'est pas dans un consentement éclairé. Donc il y a la tempête, cet événement extérieur qui fait que ben, on n'est pas pareil dans sa tête. Il y a le fait que Gégé est le seul à avoir un bateau, donc il est en rapport de domination, utilise ce rapport de domination à des fins sexuelles, que la mère, la personne ressource n'est pas disponible. Et je conclue par un petit film de 64 secondes que j'ai trouvé sur un site canadien qui est silencieux, il n'y a pas de musique. Et je trouve ça, c'est pas mal parce que ça permet bien de se concentrer avec des phrases qui sont projetées autour de la culture du viol. Et qu'est-ce qui fait que, entre autres, un environnement, par exemple, sexiste, génère la culture du viol? Exactement ce qu'on retrouve dans une vidéo que je montre aussi aux jeunes sur l'Olympique de Marseille.
Bah, on va l'écouter. On va écouter cette fameuse vidéo.
Monsieur le petit capitaine de l'équipe de France, t'imagines des gens comme il est né, il n'avait pas de dents, frérot. Et ta mère, elle a sucé comme une chienne. Ta mère, elle a sucé comme une chienne. Comme une grosse chienne.
Qu'est-ce que c'est ça et pourquoi faut leur passer aux élèves?
En fait, je suis tombé dessus sur TikTok et je me suis dit, j'ai téléchargé direct, d'ailleurs j'ai bien fait puisque la personne l'a enlevé après. Et je me suis dit, il y a plein de trucs à bosser là-dessus. C'est-à-dire que nous, on nous envoie faire de la prêve toute l'année sur l'égalité. Et en fait, dans un stade de 80 000 personnes, on laisse un type qui est le capot, hein, le chef des ultras. C'est lui qui est censé mettre l'ambiance. Donc déjà, ça pose la question de l'ambiance quand même.
Parce que là, juste pour situer le contexte, c'est un match de foot?
C'est un match de foot à Marseille, au stade Vélodrome.
Ok.
Et c'est un plan un peu large, d'une tribune, avec le capot qui est au-dessus de tout le monde, avec un micro et qui hurle ça autour avec les gens qui le filment, qui rigolent, qui trouvent ça génial. Quoi.
Ok, donc c'est le chef des supporters ultra de l'OM.
Ouais, c'est celui qui est censé mettre l'ambiance.
Ok.
Alors déjà, moi j'aime bien rebondir là-dessus, je leur dis, bah voilà, c'est quand même une ambiance géniale. C'est-à-dire que si on organise un mariage, c'est sympa de l'inviter quand même, d'avoir un mec qui, hurle dans son micro, ta mère elle suce comme une grosse chienne, ça va être très sympa, c'est une bonne soirée quoi. Donc déjà, ça pose la question de l'ambiance. De, effectivement, quelle vision
c'est
on a.
C'est une bonne ambiance, ouais.
Ouais, de la bonne ambiance. Donc le type, quand même, attaque donc, la mère d'un joueur, une femme. Donc au début, il dit que tout le monde sait une pute et tout le monde le sait. Il attaque la sexualité des femmes, le fait de sucer. Mais pas sucer n'importe comment, sucer comme une grosse chienne. Donc le type balance, moi je parle d'injures à caractère sexiste, voire même d'outrage sexiste, dans une enceinte publique. Et c'est repris par tout le monde. On bosse déjà sur les mots, l'impact des mots. En général, les jeunes sont quand même pas mal assez sidérés. Et puis ensuite, c'est un peu comme le rap, en fait. Ils écoutent des fois plein de trucs, puis quand on sort les mots, quand on les sort du flow, en fait, dans ce coup, ils disent « Ah ouais, il a quand même dit ça ». Non, c'est un peu pareil, là. C'est-à-dire que quand on est dans l'ambiance, j'imagine qu'on monte avec, on se dit « Ah, ouais, c'est trop drôle ». Et puis en le prenant du recul, on se dit « Mais quand même, c'est violent, quoi ». Et ensuite, ce qui est intéressant à bosser, c'est la posture. Parce que le mec est au-dessus de tout le monde, il est torse nu. Donc déjà, on peut travailler sur le rapport au corps. C'est-à-dire que le mec se permet de nous imposer sa nudité dans un espace public. Là où si une fille ou une femme le fait, les réactions ne seront pas les mêmes. Donc ça, ils le disent, ils l'amènent. Hein. Moi, je l'amène avec eux, en fait. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il est au-dessus. Donc c'est vraiment la position du mâle alpha. Donc le mâle alpha, c'est compliqué d'aller le chercher. Mais par contre, autour, c'est les mâles complices. Et là, on peut travailler avec les jeunes sur à quel moment, en tant que mec, on est complice. Alors, je dis toujours « on » quand je travaille sur les garçons et les hommes, sur la masculinité, pour histoire de ne pas les stigmatiser et leur dire bah, « c'est vous qui merdez, moi je suis au-dessus de la mêlée ». Non, non, moi je suis aussi un mec, j'ai des choses à travailler. Et donc je leur dis « on ». À quel moment on est dans une masculinité complice? Et en fait, on cherche des exemples. Et ils en trouvent, hein, il y en a. Hein. Le pote qui insulte et puis on rigole avec lui... Tout ce qui tourne autour du boys club, en fait. Et là, c'est quand même assez symbolique. C'est-à-dire que moi, j'ai écrit à Marseille, hein, je leur ai envoyé la vidéo, je leur ai dit, voilà, vous cautionnez des injures à caractère sexiste, dans un espace public, mais surtout, aussi, vous cautionnez la culture du viol. C'est pour ça que j'en reviens à cette histoire de vidéo. Et là, les jeunes ne comprennent pas toujours, et je leur explique la culture du viol.
Et est-ce que vous avez des réactions différentes chez les jeunes garçons ou chez les filles?
Oui, ben, sur le foot, c'est quand même flagrant, parce que même si aujourd'hui le foot féminin existe, et critiqué quand même, hein, parce que le truc qui s'est passé récemment sur FIFA, ils le racontent, les jeunes, avec cette... Les mecs critiquaient déjà la présence d'équipes féminines sur FIFA, disant que ça ne servait à rien.
Donc bouffé, sur le jeu vidéo, hein, FIFA.
Le jeu vidéo, ouais, ouais c'est, où ils sont très nombreux à jouer, hein, ça bouffait la mémoire pour rien, etc. Donc,
ouais. Ah ouais?
Oui.
Ah, il dit ça?
Oui, bah ouais, ça bouge de la mémoire pour rien. Et puis récemment, là, il y a FIFA a lancé des équipes mixtes. Et il s'avère qu'il y a une des joueuses, il y a un bug. Elle tourne autour du ballon, mais elle ne peut pas le prendre.
Mais non.
Elle a reçu des milliers d'insultes via les réseaux sociaux, où on l'a traitée de pute. Elle, directement. Et moi, je leur pose la question, si ça avait été Mbappé, Neymar, je sais pas, j'en sais rien, Messi, Ronaldo, qui vous voulez... qui aurait bugué sur le jeu, est-ce que vous auriez insulté les joueurs? Bah non, on aurait insulté le développeur, le jeu, etc. Mais...
Je n'en reviens pas.
Ouais, c'est assez fou, en fait. Et là, quand même, les mecs disent, ouais, c'est quand même... là, c'est relou. Quoi. Donc, il y en a quand même beaucoup qui se désolidarisent, qui se disent, mais c'est...
En revanche, vous dites qu'il y a un truc où ils ne se désolidarisent pas du tout, c'est sur l'affaire Benjamin Mendy. Donc, footballeur qui était d'abord mis en examen, pour viol, tentative de viol, agression sexuelle sur 7 femmes différentes, et finalement qui a été relaxé en Angleterre et qui a immédiatement, juste après sa sortie du tribunal, a signé pour un nouveau contrat dans un club. J'ai un bon ami, Vincent Hédin, qui a commenté cet événement, notamment un article de L'Équipe, où il disait que dans L'Équipe, il ne parlait absolument pas de cette affaire. Il se demandait juste comment allait pouvoir jouer Benjamin Mendy après toutes ces épreuves qu'il avait traversées et tout ça. Mais il n'y avait absolument aucune mention du fait que... Enfin, il y a quand même 7 femmes qui l'ont accusé, quoi. Et vous écrivez, vous, que cette affaire Benjamin Mendy, c'était vraiment la revanche que beaucoup de jeunes garçons attendaient et l'exemple qu'ils utilisent pour dire que les filles exagèrent quand elles portent plainte, voire qu'elles mentent.
Ouais. Ou qu'elles sont vénales, cherchent l'argent en fait. Et c'est pour ça qu'elles attaquent les joueurs de foot qui sont très riches, hein, très clairement. Donc, ouais, ils ont sauté sur l'os, hein, l'os à ronger, en fait. Hein. Moi, je vois même, moi, j'ai un mes fils qui est fan de foot, hein, il m'a envoyé un texto direct, il m'a dit, ah, t'as vu, dès que sur les réseaux, il y a eu Benjamin Mendy jugé non coupable, ils ont tous sauté dessus, en mode, genre, bah voilà, elles ont
menti.
C'est
des menteuses, hein, ouais.
Donc, c'est important de faire la différence entre jugé non coupable et innocent, et puis surtout, essayer d'expliquer, alors j'ai bien essayé, hein, parce que là, pour le coup, c'est
là, vous
c'est
avez
pas
sorti
facile.
Les rames, quoi, sur le
ah,
truc,
bah,
non
on ouais. les sort toujours, ouais. Ouais. Ça, c'est sûr, et on va les sortir longtemps, là, sur cette affaire, parce que les mecs s'accrochent à ça, hein, et l'idée, c'est de vraiment travailler sur... C'est compliqué d'avoir des preuves, hein, quand la plainte n'est pas posée tout de suite, en fait, ou qu'on va pas voir un médecin tout de suite, et de travailler avec eux sur la difficulté de parler, en tout cas, voilà, qu'ils essayent de comprendre que c'est compliqué.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon du Cœur sur la Table et des Couilles sur la Table. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle... 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie quand elles étaient ados. À l'époque, elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire personnelle, Caroline Potier, qui est devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment mieux écouter les survivantes et les survivants d'inceste? Comment la police et la justice pourraient enfin mieux les traiter? Comment vivre avec? Et les agresseurs? Qu'est-ce qu'on en fait des agresseurs? Ce documentaire est beau, est intelligent, est bouleversant, et je pèse mes mots, il est d'utilité publique. Car en France, vous le savez sans doute, une personne sur 10 est victime d'inceste. Ça veut dire que nous sommes tous concernés dans notre métier ou dans nos relations personnelles. Dans cette série, vous apprendrez donc ce que nous pourrions tous et toutes faire si on veut un jour, enfin, éradiquer l'inceste. Alors pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair dans le podcast Le Cœur sur la Table.
Sur l'homophobie, on a quand même fait, pour le relier au foot, hein, on a organisé quand même 2 Coupes du Monde d'affilée, donc des événements mondiaux. Dans un sport le plus populaire qui existe, dans 2 pays extrêmement LGBTophobes, la Russie et le Qatar. Et moi, franchement, pour le coup, sur le terrain, enfin pas que moi d'ailleurs, on a tous vu une montée très forte d'un discours homophobe, transphobe, LGBTphobe, décomplexé.
Ah ouais. Au moment des Coupes du Monde.
Ouais, vraiment.
Ça se voit comment?
C'est-à-dire que c'est dit plus directement. C'est-à-dire que tout de suite, des fois, ils ont dit « Ouais, bon, c'est bon, les homosexuels, il y en a marre, ça suffit. On les voit trop sur les réseaux, il n'y en a que pour eux, etc., etc., etc. »
Qu'est-ce que vous répondez quand vous entendez ça dans les classes?
J'essaie de faire le lien entre toutes les discriminations, parce que certains ou certaines d'entre eux sont touchés par les discriminations. C'est là où on peut avoir un volet un peu plus intersectionnel, quoi. C'est-à-dire que on peut avoir des jeunes, par exemple, qui peuvent être touchés par l'islamophobie, qui est très présente en ce moment, par le racisme, par le sexisme et par le classisme, classe sociale. Et du coup, l'idée, c'est de voir avec eux que on est souvent choqué par quelque chose qui nous concerne. Ça renvoie des fois aux fameux sales PD que les jeunes se renvoient tout le temps, toute la journée, dans les couloirs, dans les cours de récré, où tu leur dis « sale PD, c'est homophobe ». Ils disent « mais non, c'est un petit code entre nous, on rigole, c'est pas méchant ». Ok, parce que peut-être que c'est un code entre vous, mais ce code, il s'exporte pas. C'est-à-dire que si moi, je suis homosexuel, j'ai votre âge, je passe ma journée avec des mecs qui se traitent de sales PD, est-ce que je me sens bien, à votre avis? Et là, ils se rendent compte, ils disent « ouais, quand même, c'est peut-être un peu violent, etc. »
Dans le livre, parce que vous dites que vous êtes athée, mécréant, pas croyant, vous dites vous avez eu votre lot d'obligations à la con avec le daron, donc maintenant c'est non, c'est un truc assez constitutif quoi, de qui vous êtes. Et à la fois, cette question de la religion, elle s'invite quasiment tout le temps dans les séances de prévention, et pas que la religion musulmane d'ailleurs, toutes sortes de religions. Et vous dites que ça, par contre, vous avez vu le fait religieux qui a monté quoi, en 30 ans d'intervention dans les classes. Comment vous avez mis de l'eau dans votre vin? Comment vous vous êtes arrangé de ce fait-là? Quelle est votre attitude maintenant par rapport à ces questions religieuses? Quand vous dites qu'il y a beaucoup de jeunes qui vous disent « bah non, ça ma religion l'interdit », etc. Comment vous réagissez face à ce type de remarques?
Je trouve que c'est là où la professionnalisation de notre boulot, elle est importante. Quand je suis en mode professionnel, je mets de côté le personnel. Et en mode professionnel, de toute façon, je dois accompagner effectivement toutes les sensibilités. Et si les jeunes veulent parler de religion parce que ça fait partie de leur identité, on va en parler. Oui, moi c'est vrai que je suis pas croyant, qu'il y a plein de choses que je trouve assez violentes dans les discours autour de la religion. Ça justifie plein de choses. Mais bon, après, la manière de vivre la religion, elle est très large. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui peuvent avoir des propos assez radicaux. En plus, la religion, c'est identitaire aussi. C'est une manière de créer une communauté, d'être ensemble et de s'y retrouver, en fait. Certains jeunes vont me dire plus facilement qu'ils sont musulmans que français. Alors, ça énerve énormément Pascal Praud et ses potes, mais quand même, l'air de rien, c'est leur réalité, en fait. C'est que cette communauté-là, elle est plus présente pour eux, elle est plus forte. Ils s'y retrouvent plus facilement que dans une société où, très souvent, on les discrimine, en fait, on les oppresse. Donc, c'est à prendre en compte. Maintenant, après, c'est la deuxième temps, c'est quelle lecture ils ont de la religion. Alors, c'est pas la religion elle-même, c'est la lecture qu'ils en ont.
En même temps, vous parlez du dieu des ados, quoi. Vous dites, ouais. C'est pas comme le dieu des adultes. Attends, je vais retrouver la citation. C'est je fais référence ici au dieu des ados, celui qui s'invite dans mes séances de prévention, capable de grandes leçons de morale, le bédo au bec ou la capote en poche.
Oui, c'est-à-dire que les ados, c'est toujours le grand écart, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un discours très radical sur la virginité, parce que dans leur religion, là-dessus, elles sont toutes d'accord, je crois, il faut être vierge au mariage, et c'est important, parce qu'il faut être pur, etc., etc. Et puis, en même temps, ils viennent chercher des capotes à la fin, parce qu'ils sont dans une sexualité active et qu'ils ne seront pas vierges au mariage. Donc là, sur ces discussions-là, c'est plus voir qui a la pression.
Dans les sujets souvent qui arrivent dans les discussions, dans vos animations, il y a la pornographie. On a les derniers chiffres de l'ARCOM, donc l'Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle et Numérique, qui dit qu'il y a la moitié des garçons de 12 ans et 65% des garçons de 16 ans qui se sont rendus sur un site porno chaque mois. La moitié des garçons de 12 ans qui se rendent sur un site porno chaque mois, voilà. Et vous expliquez que vous êtes passé aussi par tous les stades face à cet état de fait d'horreur, panique morale, déni. Et voilà, maintenant vous en êtes où par rapport à ça, à la pornographie?
Alors moi, ce qui est important à dire, c'est que je les ai en groupe, donc ils ne revendiquent pas toujours le fait de voir du porno. Donc les stats, c'est les stats, mais je les vois pas forcément. Ouais. Ils ont plutôt tendance à dire dans le groupe qu'ils n'en voient pas ou qui ne vont pas se connecter. Bon. On n'est pas dupes, très clairement. Oui, on est en train de réguler le porno. Donc, je crois qu'on veut faire fermer 5 sites. On a toujours un coup de retard. C'est-à-dire qu'on est en train de se questionner sur comment faire fermer des sites. Enfin, rendre l'accès impossible aux mineurs sur ces sites. Alors qu'à côté, ils sont déjà tous, la plupart ont déjà basculé sur Telegram et sur des comptes Telegram d'ultra-violence avec des tas de vidéos,
Telegram,
de sexe.
C'est des réseaux sociaux des chaînes de communication, en fait. C'est comme un WhatsApp, mais vous pouvez avoir des chaînes de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont dans le même groupe, mmh. où on peut balancer des vidéos, des liens, etc.
Et surtout, il y en a plein qui sont abonnés à des groupes où il y a d'abord des vidéos d'ultra-violence, on en parle très peu, mais moi, ils montrent des fois des trucs qui sont incroyables. Mais il y a aussi énormément de choses autour du porno. Et
notamment des groupes Ficha.
Ouais, les groupes Ficha.
Donc les groupes Ficha, c'est les groupes où on affiche, Ficha, des filles, hein, c'est toujours que des filles en fait, qui ont envoyé un jour à un amoureux ou un crush des nudes, donc des photos intimes ou des vidéos intimes, c'est
ouais.
le groupe Ficha.
Ouais. Qui sont partagés avec plein d'autres mecs et on commente et évidemment on fait une rumeur, une réputation. Et puis il y a des groupes Ficha par ville des fois. Moi je me souviens d'une jeune fille, c'était un groupe Ficha Bobigny, son Instagram avait été aspiré, balancé. Bon là, ça va être le level supérieur, donc ça n'a jamais s'arrêté. Alors nous, notre boulot, en fait, très clairement par rapport à ça, moi, le juridique, l'interdiction, etc., ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas mon boulot, ça c'est le boulot de la police, des juristes, des politiques. Nous, notre boulot, c'est de faire la réduction des risques avec ça, c'est-à-dire que ça existe.
La réduction des risques, c'est la même chose qu'avec la drogue, en fait.
Ouais.
C'est de dire, en fait, là, vous pensez interdire, réprimer, ça ne sert à rien pour la drogue. En fait, réduire les risques, c'est par exemple
interroger sa conso.
Ouais.
Minimiser la prise de risque dans sa conso. À quel moment je suis en difficulté avec le produit? Là, c'est pareil pour le porno, finalement. À quel moment je suis en difficulté avec ce que je regarde? Quel impact ça a sur ma vie sexuelle, sur ma vie relationnelle? À quel moment j'ai vécu quelque chose de problématique, voire de toxique avec ce... Je sais pas, par exemple, on m'a obligé à regarder sur le smartphone une scène à caractère pornographique, alors que je le voulais pas. C'est une agression sexuelle. Ça, ils le savent pas. Ça, ils le découvrent. Ah bon, c'est une agression? Bah oui. Est-ce que la personne était consentante pour voir des images qui peuvent éventuellement la choquer? Alors, juste par exemple, on focalise à mort sur le porno. Et puis à côté de ça, je donne un exemple très concret que moi j'ai vécu. Je me souviens d'un soir où il y avait une soirée sur l'inceste et il y avait le film de Corsini sur l'inceste. Et j'avais vu que c'était moins de 10 ans et j'ai dit tiens, ma fille qui était en quatrième, je dis ça peut peut-être, le sujet peut être intéressant quand même à aborder. On commence à regarder, le film démarre tout de suite par un cuni en gros plan. Et en fait, c'était moins de 10 ans. Et ça pose la question de l'âge et des scènes de sexe. Il y en a de partout, en fait. Donc, c'est cibler le porno, ok, très bien. Bien évidemment que l'accès au porno pour des gamins de primaire, on peut se dire, ouais, au secours. Mais en même temps, quand on parle des mineurs, un première ou un terminal qui va aller jeter un œil sur un film porno pour juste se renseigner un peu comment ça se passe, tout en gardant un esprit critique, ça, c'est notre boulot, de développer un esprit critique par rapport à ce qu'il voit. Et entre autres, les violences dans les images. Mais pour certains ou certaines, ça va être aussi une manière de s'informer. Et ils le disent.
C'est une manière de s'informer.
Ouais.
De s'éduquer.
De s'éduquer. Mais ça veut dire pousser l'investigation. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Quel type d'éducation ils en retirent? Et surtout, parce qu'il y a pas, il y a bien évidemment des images violentes, mais il n'y a pas toujours que des images violentes, il y a aussi du sexe, tout simplement. Hein. Et c'est arriver à voir un petit peu, c'est ça, développer un esprit critique par rapport aux images. Moi, c'est ce que j'appelle la réduction des risques, parce qu'on n'arrête pas de nous parler d'interdiction, mais c'est impossible. Comment on peut interdire un accès à autant de sites, de comptes, de... Sur Twitter, le soir, des 10h du soir, il y a des fellations en live sur les fils Twitter, quoi. Qui renvoie à des comptes OnlyFans, à plein de choses, etc. Donc, ils ont accès à ça.
J'adore ce que vous dites aussi sur les alliés. Vous dites que vous arrivez avec une posture d'allié du féminisme, même si vous ne leur dites pas explicitement, hein, c'est pas ça, mais vous refusez la connivence avec les gars et tout, en même temps, vous ne les attaquez pas frontalement, parce que vous dites, en fait, pour les ados, ça ne sert à rien de les attaquer frontalement, ça ne fonctionne pas, c'est contre-productif, la résistance est trop forte, le problème, ce n'est pas la masculinité, mais la façon dont elle s'exprime, à qui elle s'adresse. Et vous pointez le fait que dans la sphère publique, dans la sphère médiatique, on a un problème quand même avec cette histoire d'homme allié du féminisme, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune attitude, il n'y a aucun mec qui donne envie quoi, dans son attitude, parce que vous listez, on a Martin Page qui dit dans La Déferlante, on va toujours être des alliés décevants. Bon, ok, mais c'est pas très vendeur. Thomas Messias, pareil, qui dit c'est pas possible d'être un bon allié, etc. Donc, c'est pas vendeur non plus. Francis Dupuy-Déry, qui est un universitaire québécois, qui a écrit un petit guide de disempowerment pour hommes pro-féministes que moi je donne toujours à lire parce que je trouve qu'il résume tout bien. Mais en fait, vous dites que c'est incompréhensible quand on connaît pas le vocabulaire féministe et que. Il y a même des conseils qui sont donnés, qui sont complètement contre-productifs aussi. Par exemple, il dit, voilà, notre devoir en tant qu'alliés des féministes, c'est de surveiller les autres hommes et de se désolidariser de leur comportement toxique. Vous dites, bah ça, si j'explique ça aux jeunes, ils vont dire que c'est un truc de balance, en fait, de faire ça. C'est pas possible. Donc, comment on s'en sort avec cette histoire de c'est quoi être un bon allié, concrètement, sur le terrain, quand on veut en parler à des adolescents qui sont pas spécialement féministes?
Ouais, c'est pas simple. C'est vrai que tout ce qui est dit, montré, écrit, je trouve, c'est cible quand même des personnes qui ont déjà conscientisé pas mal de choses. Donc c'est comment on peut leur traduire ça, en fait. C'est-à-dire que le fond est intéressant, mais comment on peut leur traduire ça? Je parlais d'empathie tout à l'heure. Effectivement, ça peut être ça, ça peut être une des solutions. C'est provoquer de l'empathie, effectivement, par rapport aux violences que peuvent subir les autres. C'est-à-dire que donc sortir de son fameux point de vue situé et aller essayer de comprendre ce qui se joue chez les autres. Ça peut passer aussi par des rappels autour de la loi aussi, des fois, quand même, parce qu'il y a quand même, à un moment donné, on fait de la prévention, puis quand elle ne veut pas rentrer, ben, malheureusement, on est obligé de faire un petit signe de répression, c'est-à-dire que dire qu'il y a quand même des lois, qu'il y a des choses qui sont des délits, qui ne sont pas des opinions, que ça impacte d'une manière tellement forte les autres que ben, c'est une violence. Puis je pense que l'idée de les amener, effectivement, systématiquement à réfléchir sur qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça dit de moi quand j'ai des propos sexistes, homophobes, d'où ils viennent, essayer d'en trouver la source. Est-ce que c'est vraiment moi ou est-ce que ça vient de mon environnement, de ce que j'ai lu, de ce que mes parents m'ont inculqué, de cette obligation pour les garçons. Très souvent, il y a ce fameux conflit de loyauté entre ce qu'ils ont des fois envie de faire et puis ce que leur impose le groupe. Moi, je l'ai vécu avec mes fils, hein, très clairement. Hein. On va avoir un discours, par exemple, antisexiste, allié du féminisme. Sur les mots, ils vont être d'accord. Sur les faits, ils vont être d'accord. Et puis, à côté, ils sont dans un environnement hyper masculiniste où, si jamais tu sors de ce cadre-là, tu te fais marcher dessus. C'est ce qu'ils disent. Hein. Tu te fais marcher dessus.
C'est pas seulement que t'es moqué et tout ça, c'est que tu te fais écraser, quoi.
Tu te fais écraser. Tu te fais marcher dessus. C'est-à-dire que t'existes pas, en fait. T'existes plus. Et c'est là où c'est compliqué, parce que je trouve que... c'est-à-dire que si t'avances sur un petit groupe ou sur une ou deux personnes, ils sont quand même plongés dans un environnement autour d'eux qui n'est pas forcément au même niveau de conscientisation, et c'est celui-là qui va gagner et qui va l'emporter, en fait. C'est exactement ce qui se passe dans un stade de foot. Je pense qu'il y a peut-être plein de mecs, si on leur montre la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, ils vont dire « c'était n'importe quoi », mais quand ils sont dedans, ils seront embarqués.
Oui, c'est la masculinité complice.
Exact.
Ça arrive que vous sortiez de séance complètement découragé?
Oui, ça arrive, hein, bien sûr. Ça arrive, des fois, tu... D'abord parce que des fois, j'ai l'impression d'avoir été à côté de la plaque, et ça peut arriver, hein. De ne pas avoir attrapé la dynamique de classe, de ne pas les avoir emmenés là où un petit peu où j'avais envie qu'ils aillent en termes de réflexion, non pas en termes d'idées, je ne suis pas là pour les convaincre de quoi que ce soit, hein, mais oui, ça arrive, et puis des fois, où j'ai des séances où j'entends des choses assez violentes. Tout ça, cet ensemble de choses fait que, ouais, il y a des moments où en fin d'année, moi, je sens que je suis un peu fatigué, ouais, émotionnellement, en fait.
Vous dites que vous n'êtes pas du tout religieux, mais en même temps, à vous lire, toutes ces chroniques là et la façon dont vous parlez de votre travail, le fait que, en fait, vous avez, moi je trouve qu'il y a une espèce de foi, en fait, quand même, de foi dans l'humanité. Il y a quelque chose donc qui est pas religieux mais de l'ordre du spirituel quand même, dans l'idée que vous consacrez tout votre temps, votre énergie, votre patience à réexpliquer encore et encore les mêmes choses, à y trouver du sens, à le faire avec enthousiasme, à pas lâcher l'affaire. Mais qu'est-ce qui vous tient? Qu'est-ce qui fait que ça tient, quoi?
Ouais, on peut parler un peu de nourriture spirituelle, hein, vraiment. Moi, je dis que ce boulot me nourrit, donc il me nourrit forcément intellectuellement, spirituellement. Et ouais, ça fait plus de 20 ans que je vais dans les établissements scolaires. S'il faut être à 8h du matin à l'autre bout de l'Île-de-France, j'y suis, quoi. Et c'est là où je dis souvent, on fait pas tout à fait le même boulot que la prévention sur Instagram ou sur YouTube. C'est-à-dire que on fait du aller vers, en fait. Donc,
vous faites du quoi ?
Du aller vers. On va vers les personnes,
ah oui.
Ceux qui sont sortis du circuit, ceux qui sont pas abonnés à des comptes Instagram ou des chaînes YouTube sur ces sujets-là, en fait.
Ou qui n'écoutent pas les podcasts, parce
qu'ils les écoutent pas non plus, parce qu'ils les connaissent pas, ça les intéresse pas, et c'est pas du tout leur environnement, en fait. Donc ça, c'est complémentaire, en fait. Ces deux préventions-là sont complémentaires. Ce qui me fait un peu peur, c'est que on a tendance à aller plutôt vers du bot et de l'internet uniquement, parce que ça fait des économies de personnes sur le terrain. Donc je me méfie un peu de ça, parce que il y a des comptes Instagram fabuleux avec plein de choses qui sont dites dedans, mais en même temps, une fois qu'on a fait le tour de toutes ces followers, et c'est essentiellement des femmes en plus, les autres, on en fait quoi? On va les chercher où? L'avantage, c'est que nous, on va quand même sur le terrain, on va chercher ceux qui forcément sont pas forcément sensibles au sujet au départ. Donc on vient un peu les bousculer sur leur représentation. Moi, j'y crois parce que, je l'ai dit tout à l'heure, devoir de mémoire, devoir d'avenir aussi pour les jeunes générations. Et puis surtout, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est que je suis un peu un énervé sur le monde et sur les discriminations et sur les injustices. Et si j'avais pas ce boulot, moi, j'en connais des gens qui, politiquement, sont hyper énervés devant leur ordinateur, on les voit, hein, qui postent des trucs. Et l'avantage d'être dans l'acte, au quotidien, c'est-à-dire de vraiment agir et d'avoir en face de moi des personnes avec qui je vais travailler et sentir les choses qui bougent, qui évoluent, qui reculent aussi, mais qui réévoluent, etc., ben, ça m'empêche, je pense, d'être dépressif. Les personnes qui travaillent justement sur ces questions-là sont quand même essentiellement les femmes, c'est quand même la réalité. Moi, je bosse qu'avec des femmes quasiment. Et souvent, on en parle avec mes collègues et c'est vrai que moi, mon point de vue situé de mec, cisgenre, hétéro, plus de 50 ans, donc quand même, globalement, le mec qui, a priori, est quand même... quand même un peu la personne à sniper.
Blanc.
Ça, c'est intéressant aussi quand même, parce que moi, je vis quand même dans un département où il y a une mixité très forte. Je pense que ça me demande de lire, énormément lire, pour m'interroger. Je me suis encore commandé hier le manuel antiraciste qui est sorti via Sud Éducation 93.
Ah, c'est Entrée en pédagogie antiraciste.
Entrée en pédagogie antiraciste.
C'est chez Shed Édition.
Voilà.
Ouais. Super.
Donc j'ai reçu hier, du coup, je vais le lire, quoi, et puis je vais essayer de prendre des choses, et puis ce boulot, il m'a enrichi d'une manière incroyable, en fait, c'est-à-dire qu'il m'a obligé à m'interroger sur tout ce qui me faisait mon identité, et à bousculer des choses. Puis en plus, je pense que cette carte à jouer avec les mecs, c'est une espèce de mission, en fait, et je me dis, je peux jouer cette carte-là avec eux, parce que... Des fois, ils me font un petit clin d'œil, genre, allez, monsieur, on s'est compris. Et ils sont déstabilisés parce que je ne vais pas les emmener là où ils pensaient que j'allais les emmener en tant que mec, en fait.
C'est-à-dire ?
Sur des propos un peu sexistes, ou. Enfin, pas qu'un peu d'ailleurs sexistes, ou homophobes, ou autre. Ils se disent, entre couilles, on se comprend. Tu vois, cette fameuse phrase. Donc, vous allez nous faire de la prévention, mais vous n'allez pas non plus trop nous rentrer dedans sur ces sujets-là, parce que finalement, on est des mecs. Et là où ils sont surpris, c'est que, non, ça ne passe pas, quoi. Et je trouve que cette carte, elle est à jouer parce que quand moi j'ai des collègues, par exemple, mes collègues femmes vont dans certaines classes, on leur envoie l'idée que, encore une féministe qui va nous saouler. Moi, ils n'ont pas cette image de moi, forcément. La dimension alliée du féminisme ou du sexisme ou du racisme,
de la lutte contre le sexisme ou le racisme.
Alliée de la lutte contre le sexisme et le racisme. C'est pas un truc qu'ils ont forcément en tête. Et pour eux, c'est très. Les femmes parlent les femmes et les mecs parlent les mecs. Hein. Et du coup, avoir un pont entre les deux, je trouve que ça me donne un rôle qui me motive, en fait, parce qu'il y a un chantier énorme, en fait.
Mais je trouve ça très très fort parce que vous dites, il y a un côté mission. À la fois, vous dites, je suis pas là pour les convaincre. Moi, je suis pas là pour leur asséner des vérités. Je suis là pour les faire discuter, pour les faire réfléchir. C'est encore une attitude qui est différente de l'attitude militante, en fait. C'est une posture d'éducation.
Ouais, alors ça, des fois, c'est difficile, mais je pense que c'est hyper important de faire la différence entre l'éducatif et le militantisme. Et j'ai été militant. Aujourd'hui, j'ai un t-shirt d'ACT UP parce que j'ai manifesté souvent avec ACT UP.
ACT UP qui est donc une association historique de lutte.
De lutte contre le sida.
Le sida, ouais.
Et c'est vrai que le discours militant, il est vital, il est important, il doit être radical par moment pour faire avancer les choses. Mais dans la prévention et dans l'accompagnement des jeunes, ça ne marche pas. Enfin, pour moi.
Pour terminer, Dr Capote, Didier Valentin, est-ce que vous voulez bien nous recommander une œuvre d'art, s'il vous plaît ?
Hier, je me suis dit, mais attends, quelle œuvre d'art t'as accompagné effectivement toute ta vie ? Et moi, il y a un film, c'est « Était une fois en Amérique », qui m'a accompagné de 20 ans à aujourd'hui, que j'ai voir 50 fois, j'imagine, que j'ai transmis ça à mes fils.
Était une fois en Amérique de
Sergio Leone.
Sergio Leone.
Ouais. Et c'est surtout la musique d'Ennio Morricone qui colle tellement de manière fantastique avec ces images qui m'accompagnent. Je l'écoute, je sais pas.
Mais c'est vraiment un gros film de masculinité dominante, là.
Tout à fait. Et c'est là où c'est intéressant, en fait, c'est de voir comment moi j'ai aussi évolué. Je me suis dit, je vais garder quand même ce film, parce que c'est de voir comment aussi j'ai évolué et regardé différemment ce film avec le temps, avec les âges, en fait. C'est-à-dire qu'au début où je l'ai vu, je crois que j'ai vraiment focalisé sur cette histoire de bande de mecs qui, ensemble, montent leur business et avec cette histoire d'amitié assez forte. Et puis, petit à petit, dans mon boulot, y a cette histoire quand même. Il y a deux viols qui arrivent dans ce film qui sont quand même, effectivement, des moments très, très durs et que, bien évidemment, ont apporté un regard différent aussi sur le film. C'est une saga incroyable, en fait, mais qui, effectivement, peut avoir des tas de lectures, en fait. Et je trouve que... En tout cas, moi, c'est un film qui m'a beaucoup accompagné et surtout la musique qui va avec, en fait.
Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Didier Valentin pour son temps et sa confiance. Je redis ici la grande admiration que j'ai pour son travail. Et je vous recommande de lire et d'offrir son livre « Pubère la vie ». C'est un cadeau idéal pour toutes les personnes qui travaillent avec des ados, bien sûr. Mais au-delà de l'aspect instructif, c'est aussi un grand plaisir de lecture, plein d'humour, de trouvailles et de jeux de mots. Et si l'éducation à la vie affective, sexuelle et relationnelle vous intéresse un peu, sachez qu'on vient de sortir un documentaire exceptionnel sur le sujet, dans le podcast « Le cœur sur la table ». Il y a une prof de CE1 qui a enregistré toutes les séances qu'elle fait avec ses élèves et qui a aussi enquêté sur pourquoi ça pose tellement de problèmes qu'on enseigne le consentement ou le fonctionnement de leur corps aux enfants. Ça s'appelle « C'est quoi l'amour maîtresse ?» C'est signé Lolita Rivet avec une réalisation de Paul Berthiaud. Si cette conversation vous a plu, envoyez-la à un ou une camarade que ça pourrait aussi intéresser ou parlez-en sur les réseaux sociaux. On peut nous écouter sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur YouTube. On continue aussi de lire les messages que vous nous envoyez, soit sur nos réseaux, soit à l'adresse lescouillessurlatable@binge.audio. Les couilles sur la table, c'est un podcast qui existe depuis 2017, toujours produit par Binge Audio, avec l'aide de toute une équipe. Cette fois-ci, à la prise de son, c'était Quentin Bresson, à la réalisation, Paul Berthiaud. Merci à Naomi Titi qui a assuré la production, l'édition et le montage, à Liz Hinderkorn et Jeanne Longuigny pour la com. Et vous, merci beaucoup, chers auditeurices, pour votre écoute, pour votre fidélité, et à bientôt.
Salut, c'est Victoire Tuaillon du Cœur sur la table et des couilles sur la table. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie quand elles étaient ados. À l'époque, elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire personnelle, Caroline Potier, qui est devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment mieux écouter les survivantes et les survivants d'inceste? Comment la police et la justice pourraient enfin mieux les traiter? Comment vivre avec? Et les agresseurs? Qu'est-ce qu'on en fait des agresseurs? Ce documentaire est beau, est intelligent, est bouleversant, et je pèse mes mots, il est d'utilité publique. Car en France, vous le savez sans doute, une personne sur 10 est victime d'inceste. Ça veut dire que nous sommes tous concernés dans notre métier ou dans nos relations personnelles. Dans cette série, vous apprendrez donc ce que nous pourrions tous et toutes faire si on veut un jour enfin éradiquer l'inceste. Alors pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair dans le podcast Le cœur sur la table.